Alors, je vais lire dans Agée, au chapitre 2, les versets 1 à 9. Je lis dans la version Summer. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agée en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Et maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples, et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartiennent tout l'argent et tout l'or. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera de beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes.
Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je commence un peu emprunté. Emprunté parce que il y a deux semaines, au moment d'entrer dans la voiture, ma femme m'a signalé le fait que je commençais toujours par dire « C'est avec beaucoup de joie que je me trouve devant vous ». Et donc ce matin, je peux bien entendu pas commencer par cette phrase. Donc bien que ça me fasse plaisir d'être là, Je ne vais pas le dire. Donc nous continuons avec le prophète Agée. Nous continuons et aujourd'hui aussi, je ne suis pas hors sujet. Parce que aujourd'hui toujours, Agée signifie fête ou celui qui est né un jour de fête. Et comme ma thématique est sur la fête, je suis au bon endroit. La période d'Agée couvre une époque absolument remarquable. Pour la première fois, on a des grands empires qui s'étendent du Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Iran, Syrie, Irak, Turquie. Voilà, ça c'est l'empire perse, conquis par Cyrus le Grand. C'est une période remarquable. Et le texte commence par le 21e jour du 7e mois, sous-entendu du règne de Darius. Et avec Darius, on est sûrement face à l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité. Alors je parle bien de Darius Ier, là, dans le texte. Hein. Ce n'est pas Darius III qui perd la guerre, la bataille face à Alexandre le Grand. Hein. C'est Darius Ier, dit Darius le Grand. Et ce que l'histoire, pendant plusieurs millénaires, a retenu, c'est que Cyrus le Grand va conquérir la Lydie, donc la Turquie actuelle, et ensuite il va conquérir la Babylonie. Et à la mort de Cyrus le Grand, c'est son fils Cambyse qui va monter sur le trône. Et Cyrus a eu deux enfants, enfin il en a eu sûrement plusieurs, mais il y en a deux qui sont mis en avant, Cambyse et Bardia. Et ce que l'histoire a retenu jusqu'à récemment, c'est que Cambyse était un peu fou, que Cambyse a fait exécuter son frère Bardia, mais cette exécution était secrète et personne ne savait que Bardia était mort. Et qu'au moment où il s'est coupé, en montant sur son cheval, Cambyse, il s'est coupé avec son épée, puis ça s'est infecté, puis il est mort. Il a deux, trois ans de règne. Darius a prétendu que celui qui était monté sur le trône et qui prétendait être Bardia était en fait Gaumata, et que c'était un imposteur. Et Darius va renverser cet imposteur pour prendre le trône. Ce que l'histoire moderne, enfin ce que certains spécialistes montrent en avant, c'est que en fait, Gaumata, Bardia n'était pas un imposteur, que Cambyse n'était pas fou et qu'il n'avait pas fait exécuter son frère, et que Darius a fait croire à tout le monde que c'était un imposteur pour pouvoir monter sur le trône. Voilà. Donc c'est une histoire assez rancomolesque, mais nous ça nous va bien parce que Darius était gentil. Il a aidé à reconstruire le temple, donc comme il était gentil, c'est tout bon. La dernière fois, en étudiant le premier chapitre du prophète Agé, on a réalisé que le prophète a exercé son ministère au milieu d'un peuple découragé. Le problème des Hébreux ne se situe pas au niveau des priorités, mais il est découragé et ce découragement a conduit à l'interruption des travaux. Ils ont arrêté de reconstruire le temple. Et le découragement n'est pas une anomalie, c'est-à-dire que c'est pas si rare que ça que d'être découragé. Il nous arrive à tous de passer par des phases de découragement. Et le propre du découragement, c'est de nous faire perdre de vue le sens de notre mission. Et il a également cet effet de fermeture sur notre cœur. Il nous rend égocentriques. Si c'est comme ça, si c'est si difficile, alors je vais m'occuper de moi, de ma vie privée, je vais lambrisser ma maison à moi. Agé est envoyé par Dieu pour encourager le peuple à reprendre là où il s'était arrêté. Sa mission est que la reconstruction du temple recommence, qu'une maison soit érigée pour l'Éternel. Et au cœur de son message, au cœur de sa prophétie, Agé rappelle cette promesse. « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Dieu est présent à nos côtés. » Et Dieu manifeste sa présence d'une façon particulière à celles et ceux qui sont découragés. Le premier facteur de découragement que nous avons identifié, c'est l'opposition. Les oppositions constantes et répétées émoussent notre volonté, fatiguent notre courage. Prenez courage. La difficulté n'est pas un critère valable pour nous indiquer la volonté divine. La difficulté n'est pas un critère valable pour nous aider à discerner la volonté divine. Mais cette opposition ne détient pas le monopole du découragement. Agé identifie une autre source de découragement, la nostalgie. Et toujours en parallèle, on va lire en Esdras au chapitre 3, les versets 10 à 13. Donc ça n'a pas changé depuis deux semaines. Esdras 3 à 6 couvre toujours la même période. Et le texte nous dit, « Lorsque les bâtisseurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, tout le peuple lança une grande acclamation en louant le Seigneur parce qu'on posait les fondations de la maison du Seigneur. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondations de cette maison. » Beaucoup d'autres, en revanche, faisaient retentir des acclamations de joie. Le peuple ne pouvait distinguer les acclamations de joie d'avec les pleurs, car le peuple lançait une grande acclamation qui s'entendait de très loin. Voici le moment tant attendu. 70 ans après la chute du royaume de Juda, les déportés sont de retour à Jérusalem et ils posent les fondations du nouveau temple. C'est un jour de grande réjouissance. Cependant, le texte précise, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Lorsque ceux qui ont vu le temple de Salomon, ceux qui l'ont contemplé, ceux qui ont adoré dans ce lieu, voient comment on pose les fondations du nouveau temple, ils éprouvent une grande détresse. Le temple de Salomon ne ressemblait pas à ça. Ils sont incapables de se réjouir. Les cattels n'étaient pas disposés en épi, mais les cattels étaient alignés sur le temple de Salomon. Qu'est-ce que vous faites ? La pierre utilisée est beaucoup trop claire. Celle du temple de Salomon était bien plus foncée. Vous faites n'importe quoi. Agé aussi leur adresse cette parole au travers d'une question rhétorique au verset 3. Il dit « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas ? Au moment de reconstruire le temple, le souvenir de ceux qui ont connu sa gloire passée est un obstacle. Ils n'arrivent pas à se réjouir de la reconstruction, ils sont bloqués dans le passé avec l'ancien temple. Ici, la nostalgie les empêche d'accueillir le projet de Dieu. Ici, la nostalgie est une source de découragement. En 586, le temple de Salomon a été détruit. Il a été rasé, il ne restait pas une seule pierre. Et ceux qui ont connu cet ancien temple n'arrivent pas à admettre, c'est que le nouveau soit différent. Et malheureusement pour eux, il est impossible de reconstruire le temple de Salomon. Il a été rasé, il n'est plus possible. Et en fait, la nostalgie est une source de découragement parce qu'elle s'accroche à une réalité passée qui n'existe plus. Dans notre texte, les nostalgiques n'arrivent pas à lâcher l'image du temple qui a été détruit. Ils y sont accrochés et coûte que coûte, ce sera ce temple ou rien. Et cette attitude décourage l'ensemble du peuple et de ses responsables. Il m'est arrivé de temps en temps de faire des rencontres où je discutais avec des gens qui ont une certaine vision de l'Église. Et un des modèles qui avait le vent en poupe quand j'en discutais, c'est le retour à l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, l'Église est dévoyée, notre façon d'adorer Dieu est absolument insupportable. Il faut retourner à l'Église du Nouveau Testament, à la façon dont Paul, Pierre et les premiers apôtres ont célébré. Le problème, c'est que le monde du Nouveau Testament n'existe plus. C'était un monde à une époque particulière, avec des lois particulières. Et c'est juste impossible de revenir 2000 ans en arrière pour retrouver la façon pure et vraie de célébrer Dieu. Et ça, c'est une façon dont peut s'exprimer la nostalgie. Et à ce sujet, la Bible est plus que claire. Dieu n'est pas nostalgique. Dieu ne regrette pas le temple de Salomon. Imaginez un peu les discussions au sein de la Trinité si Dieu était nostalgique. Le Père expliquant au Fils, oh, tu te souviens à l'époque, tu te souviens du jardin d'Éden, c'était quand même bien. Hein. Les jeunes étaient bien éduqués à l'époque. Hein. Et l'Esprit Saint de rajouter, à l'époque ils m'écoutaient. Non, Dieu n'est pas nostalgique et Dieu ne regrette pas le jardin d'Éden. Le contraire de la nostalgie, ce n'est pas l'oubli. Et le texte d'Agé ne préconise pas d'oublier ou d'effacer le passé ou de déboulonner des statues. Bien au contraire, Agé s'appuie sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et sur ses promesses. Tout d'abord, au verset 5, Agé remémore au peuple la sortie d'Égypte et son alliance. Au verset 5, il dit « Ceci est la parole que j'ai coupée avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Mon souffle se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. » Alors c'est vrai que le début de cette phrase est assez compliqué à traduire. Je l'ai traduit « la parole que j'ai coupée avec vous ». À l'époque, quand on faisait alliance, quand on scellait une alliance, quand on conclut une alliance, on disait couper l'alliance. Karat berit, parce que on coupait des animaux en deux quand on faisait alliance. Et donc, cette expression est venue. Le problème ici, c'est que c'est la parole qui est coupée et pas l'alliance. Mais ça nous montre bien, ici, qu'Agé insiste, ceci est la parole que j'ai coupé avec vous quand j'ai fait alliance, quand vous êtes sortis d'Égypte. Agé insiste, la présence de Dieu est au milieu de nous. Elle est au milieu du peuple et Dieu est fidèle. À combien plus forte raison, nous qui sommes au bénéfice d'une alliance plus excellente encore, alliance scellée par le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ, à combien plus forte raison la présence de Dieu à nos côtés, dans nos épreuves, nos tribulations, nos découragements, nous est assurée. Le contraire de la nostalgie n'est pas l'oubli, parce qu'Agé s'appuie sur les promesses que Dieu a accordées à son peuple à la sortie d'Égypte. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est que de la même façon que dans le premier chapitre de Josué, au moment où Dieu envoie Josué pour la conquête de Canaan, trois fois il est fait mention « sois fort ». Trois fois il est dit « fortifie-toi ». Donc on a vraiment une reprise historique ici. Et pour finir, et je pense le plus important, pour Agé, l'oubli n'est pas le remède à la nostalgie, parce que le cœur de son message prophétique est une citation de l'encouragement d'un père à son fils, de David à Salomon. Nous lisons en 1 Chronique, au chapitre 28, les versets 20, David dit à Salomon, son fils, « Sois fort et courageux et agis. N'aie pas peur, ne sois pas terrifié, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que soit achevé tout l'ouvrage pour le service de la maison du Seigneur. » Agé ne réinvente pas la roue. Agé n'est pas le précurseur d'une nouvelle école prophétique. Il ne réinvente pas de nouvelles promesses. Il ne conclut pas de nouvelle alliance. Agé remémore les promesses de Dieu pour son peuple. Et c'est cette même promesse qui a été donnée par David à Salomon que Agé reprend et l'adresse à ses concitoyens. Et Jésus lui-même reprend cette promesse et nous l'adresse. On trouve les derniers mots de l'évangile selon Matthieu, Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous possédons une certitude, c'est que le même Dieu qui a béni le peuple après l'exil est le même qui nous bénit aujourd'hui. Nous avons le même Dieu. Et donc, au centre de cette prédication d'Agée, nous retrouvons cette promesse « Dieu se tient à nos côtés ». Dieu n'est pas assis sur un fauteuil à regarder les journées de la terre comme on regarderait un match de foot. Dieu est partie prenante de notre histoire. Il est même l'acteur principal. Et la suite de la prophétie d'Agée spécifie la manière dont Dieu œuvre au milieu de nous et confronte les nostalgiques avec la réalité. Du verset 6 à 9, nous lisons « Encore un peu et très peu, et je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations, les biens les plus précieux de toutes les nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire. » Un peu plus loin de dire « L'argent m'appartient, l'or m'appartient. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, parce que dans ce lieu, j'y déposerai la paix. » Le message d'Agée confronte les nostalgiques, parce que la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée. Dieu ne regrette pas le temple de Salomon parce que Dieu sait que le temple d'Hérode sera plus grand. Et Dieu ne regrette pas le temple d'Hérode parce qu'il sait que le temple bâti par Jésus-Christ, son Fils, est plus grand et plus glorieux. Dieu n'est pas nostalgique parce qu'il sait que ce qui vient est meilleur. Non, nous n'allons pas vers la catastrophe, vers la destruction, mais notre itinéraire se dirige vers le royaume de Dieu, où tout sera infiniment plus glorieux. Et Dieu ne regrette pas non plus le jardin d'Éden, parce qu'il voit déjà la Jérusalem céleste. C'est assez intéressant, la Bible commence dans un jardin et elle finit dans une ville. Il ne s'arrête pas là. Et il dit, juste un peu avant, « Je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, et je ferai trembler toutes les nations. » Alors, on ne sait pas très bien à quel tremblement le texte ici fait référence, s'il s'agit d'un tremblement de terre ou justement de ces fins d'empire qui étaient en fait des tremblements atroces où il y avait, voilà. Vous pouvez imaginer qu'un empire qui fait à peu près deux fois l'Europe, quand il vient à la fin, ça ne se finit pas dans le calme et la joie. Tout ceci pour dire que ici, le texte montre bien que tout ce que nous construisons est fragile. On a beau construire avec tout notre cœur et tout notre génie, il suffit d'un tremblement de terre pour réduire le tout à néant. Et je pense que, au-delà de cette gloire qui vient, au-delà de ce royaume qui doit nous inspirer, le texte montre bien que la nostalgie, c'est en fait un problème de place. Parce que la nostalgie, c'est un orgueil de ce que nous bâtissons. Non, ici le texte nous invite à assumer la fragilité de ce que nous construisons. Et pour prendre un exemple absolument sûr, c'est avec énormément de joie, maintenant je l'ai dit, que je suis au milieu de vous, mais on n'a absolument aucune idée dans 1000 ans à quoi ressemblera cette rue et ce bâtiment où nous nous trouvons. Dans 1000 ans, 2000 ans, alors bien entendu, le Seigneur sera revenu, donc. Mais je crois qu'il est nécessaire pour nous d'assumer que ce que nous construisons est éphémère et passager. Et moi, j'aime bien regarder sur YouTube des vidéos de rénovation de vieilles fermes. Je ne sais pas si je suis le seul ici. Peut-être. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des bâtiments construits avec des énormes pierres. Et c'est des bâtiments qui ont des fois plus de 1000 ans. Et cette continuité, cette façon qu'ils ont de résister au temps, je trouve que c'est quelque chose de charmant. En tout cas, moi, ça me séduit. Et pourtant, c'est peut-être un orgueil de penser que ce que nous construisons aujourd'hui durera éternellement. Mais je crois qu'il y a dans cette nostalgie, ce sentiment de vouloir faire quelque chose qui perdure à jamais. Que mon œuvre, au milieu de vous, ait un impact éternel. Mais ce que je crois, c'est qu'il est nécessaire pour nous d'assumer que ce que nous construisons est passager, malheureusement. Que ces très belles maisons, construites avec des très belles pierres, un jour s'effondreront. Voilà. Le deuxième point qu'apporte le texte ici d'Agé, tout appartient à Dieu. Tout appartient, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Dieu, la place de Dieu dans notre histoire, ce n'est pas celle d'un spectateur, mais celle du propriétaire. En quelque sorte, je vais dire, Dieu est propriétaire de l'histoire. Et c'est là justement que nous avons une espérance. Parce que si les empires s'effondrent, et ils se sont toujours effondrés dans l'histoire, si les maisons finissent par tomber en ruine, Dieu reste le même. Et ce Dieu qui reste le même, non seulement il est fidèle, mais je vais me répéter, il n'est pas nostalgique. Il a un plan. Et dans sa providence, Dieu veut amener toutes choses selon son plan. Et voilà quelle est notre espérance. Et voilà pourquoi nous devons nous, non pas oublier, mais accepter que Dieu a un plan et que ce plan, c'est différent que le présent. Que malgré toute la beauté et l'architecture et le génie de ce que ont construit nos aïeux, Dieu veut construire aujourd'hui. Et que nous avons cette espérance, ce que Dieu construit, ce que nous construisons selon Dieu, va de gloire en gloire. Amen.